Vous écoutez
RMC.
RMC, Rotten sans flamme.
Faites entrer l'accusé.
Et l'accusé du soir, c'est Jim Ratcliffe, le propriétaire d'Ineos, donc le propriétaire de l'OGC Nice, qui pourrait désormais investir à Manchester United. Alors, nos confrères de Bloomberg, le média anglais, affirment que la famille Glazer, les propriétaires de Manchester United, réfléchiraient à ouvrir leur capital à un nouvel actionnaire minoritaire. Et un porte-parole de Jim Ratcliffe a déclaré « Si le club est à vendre, Jim est clairement un acheteur potentiel ». Alors, on parle, Julien Laurence disait ça hier soir dans l'after, d'un milliard d'euros pour entrer dans le capital de Manchester United. La valeur totale du club est estimée à 6 milliards d'euros. Hein. Mais les Glazers ne seraient pas vendeurs de l'intégralité de leur part. Il n'empêche quand même qu'après avoir voulu s'acheter Chelsea en mai dernier, ce serait un nouveau gros investissement pour Jim Ratcliffe, indépendant de ce qui se passe à Nice. C'est pour ça que Ratcliffe est accusé ce soir de ne pas suffisamment considérer l'OGC Nice et d'avoir trop facilement la tête ailleurs. On va en parler avec Maxime Tilliette, qui est notre correspondant sur la Côte d'Azur et qui est au Bloomfield Stadium pour Maccabi Tel Aviv Nice tout à l'heure. Salut Maxime.
Salut Jean-Louis, bonsoir coach.
Salut. Alors Maxime, que fait Ratcliffe, ses intérêts pour les grands clubs de Première Ligue? Est-ce que comme à l'époque de Chelsea, ça a du mal à passer à Nice?
Évidemment, on s'interroge, hein, on se pose des questions. Encore une fois, eh bien, à quel étage de la fusée Ineos se trouve le gym? Quand d'ailleurs le club avait été racheté par et avait intégré la galaxie Ineos en 2019, eh bien, c'était Lausanne, hein, qui du coup s'était retrouvé un petit peu rétrogradé, qui d'ailleurs eh bien était relégué la saison passée et qui évoluera en deuxième division désormais en Suisse. Alors oui, à Nice, on craint aussi de devenir un club satellite à qui on envoie les indésirables en prêt, à qui on accorde un peu moins d'attention, mais et si on regarde de plus près, Ineos a quand même un peu repris la main cet été avec un investissement un peu plus fort, dans le sens un peu plus présent, avec notamment Dave Brailsford qui est là pour remettre un petit peu d'ordre dans la maison, avec l'après Fournier. C'est lui qui a fait un audit pour gérer un petit peu les tensions et repartir sur des bases un peu plus stables. Il se plaît d'ailleurs à Nice et aimerait bien peut-être poursuivre l'aventure. Il s'implique même dans le mercato, hein, notamment on va parler tout à l'heure d'Aaron Ramsey. Et dans un courrier adressé aux supporters, Jim Ratcliffe avait dit cet été être engagé, je cite, plus que jamais dans le projet, et on veut faire passer un palier au club. Mais quand même, dans le même temps, le propriétaire se positionne deux fois sur des géants anglais, donc forcément ça agace un petit peu, ça interroge.
Merci Maxime pour ces infos. Va falloir pousser un peu la voix, hein, parce qu'il y a une grosse ambiance derrière toi, une grosse sono, ouais, ouais, pour bien vous entendre. On revient vers toi et vers Timothée Mémon pour les compos et les infos éventuelles sur le mercato dans une seconde. Mais coach, qu'est-ce que tu penses donc de ça? Est-ce que ça te gêne d'entendre que Ratcliffe veut se payer un gros club de Première Ligue?
Bah, disons que pour le moment, c'est une participation, c'est un investissement. Mm. C'est pas un rachat, mais c'est vrai que si tu es niçois ou supporter niçois et que tu regardes ce qui se passe en Angleterre, avec justement ce personnage qui est anglais, ben tu t'inquiètes un peu et tu te dis, tiens, on est en train de regarder un petit peu le prix des joueurs, du recrutement, etc., etc. Et puis d'un coup, boum, on va partir un milliard là en 24 heures du côté de Manchester. C'est vrai que ça peut choquer et tu peux être inquiet de ce qui va se passer. Est-ce qu'il va pouvoir acheter un club aussi énorme comme club et rester en même temps du côté de Nice? Je sais même pas si on a le droit de faire
ça. Propriétaire de deux clubs, c'est compliqué quand même, surtout quand ils sont engagés dans la même compétition européenne.
Et voilà, donc c'est pour ça qu'on peut quand même effectivement être inquiet.
On va voir ce qu'en pense les supporters. Philippe nous rejoint, il a fait le 32-16. Salut Philippe.
Bonsoir messieurs.
Salut Philippe.
Ça t'embête d'entendre ça?
Ah, moi complètement, je vous dis honnêtement, c'est vraiment par rapport au contexte actuel, sur les effets d'annonce du président, comme quoi Nice, ça allait changer, on a enlevé le directeur sportif Fournier pour, comme il disait, changer de braquet, puisqu'ils ont fait appel à un directeur sportif qui vient du vélo. Je pense qu'il aurait dû y rester, puisqu'il n'est pas dans son domaine. Et a fortiori, vous voyez très bien que sur le recrutement, je trouve que c'est lamentable. Quand vous faites un effet d'annonce, que vous dites que vous allez jouer, viser les trois premières places du championnat et que vous venez de recruter pour 30 millions d'euros, c'est juste à peine risible. Quand vous voyez les équipes comme Paris, quand le Qatar est arrivé, toute proportion gardée, mais pour parler vraiment d'ambition, quand ils sont arrivés, ils ont pris Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Thiago Motta, voilà, ils ont vraiment voulu d'entrer asseoir leur dire. Là, à Nice, j'ai l'impression malheureusement que c'est juste de la parole, c'est du vent. Les joueurs que nous visons, ce sont soit des jeunes joueurs ou qui ont un potentiel peut-être futur, donc on appelle ça du trading, ou des noms de joueurs qui ont plus de 32, 33, entre 32 et 35 ans, donc qui n'ont plus une réelle valeur ajoutée sur une équipe de 90 minutes, sur une période de 90 minutes. C'est-à-dire que les joueurs qui sont dans la force de l'âge, qui sont entre 24 et 28 ans et qui vont vous coûter entre 20 et 30 millions d'euros, ils sont où à Nice ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas un seul qui a été recruté. C'est-à-dire que vous prenez comme exemple Kalimundo qui est parti à Rennes, Nice en aurait eu, mais autre que besoin d'un joueur comme ça, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ne se sont pas alignés dessus. Pas du tout. Ça veut dire que leur recrutement, il s'est orienté vers des jeunes qui ont peut-être du potentiel, mais il y a toujours cette part d'hypothèse, c'est peut-être. Et des anciens pour amener une pseudo-expérience. Mais avec ce mélange-là, vous ne pouvez pas prétendre à être dans les trois premiers du championnat de France et à être un club qui va jouer la Ligue des Champions. Et par contre, M. Radcliffe, lui, on a très bien compris que Nice, là, dans sa façon de faire au niveau business avec les clubs, Nice va être clairement un club de second choix, être un cobaye, un club satellite, vous pouvez l'appeler comme vous voulez.
Bon, après, s'il t'apporte quand même des moyens à un moment que les prédécesseurs n'amenaient pas, sans mettre les moyens des gros clubs anglais, ce sera quand même déjà bien.
Où les moyens?
Ah, pour l'instant, il n'y a pas, c'est sûr.
Non, mais bien, on a suivi. 30 millions d'euros de recrutement, alors que tu es capable de proposer 4,8 milliards pour racheter Chelsea et 1 milliard pour rentrer dans le capital de Manchester, je peux vous assurer que peut-être que les chiffres, ça ne vous parle pas, mais moi, je vois la différence entre 1 milliard et 30 millions d'euros.
Mais je te rejoins pratiquement à 100%. Pourquoi pratiquement à 100%? Je t'explique, là où je te rejoins pas, c'est dans la comparaison. La comparaison avec le Paris Saint-Germain et le Qatar, il faut laisser ça de côté. Il n'y a pas de choses comparables, sauf du côté de Manchester City. Par contre, à 25 km de Nice, tiens Monaco, et se piquer au jeu de faire au moins ce qui se passe du côté de Monaco par rapport aux investissements de joueurs et tout, d'arriver à acheter des joueurs de 30 à 35 millions avec des contrats de 4 ou 5 ans. Là, que Nice puisse rivaliser avec Monaco dans cette région, je pense
ça, c'est envisageable,
mais je m'attendais à ça.
Bien sûr.
Et là, je rejoins quand le Niçois aujourd'hui, ben, ça s'aperçoit que du côté de Monaco, on investit beaucoup plus que du côté de Nice. Et là, ça, c'est vrai qu'on peut le regretter quand on est niçois.
Ça coûtera rien en transfert, mais Nice est sur le coup de Nicolas Pépé pour un prêt. Il y a la question du salaire à voir, mais voilà, ça pourrait être l'une des recrues de la fin du mercato.
Là, déjà, ça serait bien. Ça.
Philippe, reste avec nous parce qu'on va donner des compos pour le match de tout à l'heure. C'est dans moins d'une demi-heure maintenant, dans 22 minutes. Maccabi Tel Aviv, OGC Nice, Maxime Tignette est toujours avec nous, vous entendez l'ambiance. Timothée Mémon nous rejoint également. Salut Timothée.
Salut à tous.
Salut Timothée.
Quelle ambiance.
Ouais, très très belle ambiance. Là pour le moment, la tribune qui est derrière la cage sur laquelle s'entraînent les joueurs du Maccabi, composés des ultra fanatiques du Maccabi et de la Gate 11, sont en train de donner de la voix. Et c'est assez surprenant parce que dès une bonne demi-heure avant le début de la rencontre, et là c'est en train de monter à 20 minutes du début de ce match, il y a énormément d'ambiance. C'est très très chaud. Le reste du stade sera plein, mais on peut compter sur ce COP pour vraiment donner de la voix. C'est déjà parti très très fort. Chaud d'ambiance du Moyen-Orient.
Alors allons-y sur les compos, la compo niçoise avec une surprise.
Une petite surprise, oui, en effet même une grosse surprise selon certains, c'est l'absence d'Amin Gouiri dans le 11 de départ. C'est Aaron Ramsey qui va disputer sa première, qui va s'offrir une première titularisation sous les couleurs du gym. Le 11 avec dans les buts Kasper Schmeichel, la défense de gauche à droite, Bar, Dante, Todibo et Youssef Attal. Devant à la récupération, Kefren Thuram, Mario Lemina, une ligne de 3 milieux offensifs avec Rare Sili à gauche, Aaron Ramsey en numéro 10, Calvin Stengs à droite. Et puis dans l'axe de l'attaque, Andy Delors qui va disputer sa première rencontre européenne.
On est en 4-2-3-1 là donc.
C'est ça.
Avec Ramsey dans l'attaque.
Ouais, mais bon, je pense que effectivement, Gouiri qui est pour moi un des trois meilleurs joueurs de cet effectif de Nice.
Fini.
Mais non, mais là, il va tout simplement rentrer dans la deuxième partie du match. Donc c'est,
oui, après, parce que vous voulez dire que c'est un des trois meilleurs joueurs de l'équipe de Nice. Il est sur le banc, c'est normal.
Non, mais là, n'oublions pas quand même qu'il y a un match retour. Donc c'est pas non plus un match où tu peux quand même avoir une catastrophe. Il y a encore un match retour. Et ensuite, il y a les cinq changements et le calendrier. Oui. Donc là, tu... Demain, c'est déjà vendredi, tu joues dimanche.
Ouais, Maxime, tu veux ajouter un mot ?
Oui, Amine Gouiri qui n'est pas non plus dans une période très prolifique. Son dernier but avec le Gym, c'était en Coupe de France en mars dernier, la demi-finale à l'Alliance face à Versailles. Okay. Donc ça fait un petit moment qu'il attend de retrouver le chemin défilé avec le Gym.
On remercie Philippe qui était au 32-16. On revient dans une seconde, c'est la tradition dans Rotten sans flamme. Julien Cazard, le meilleur du Cazard enchaîné. Et dans une seconde, le coup d'envoi dans 20 minutes. Le coup d'envoi de Maccabi Tel Aviv Nice en intégralité sur RMC. À tout de suite.
Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.